Carl Bélanger analyse l'actualité de l'Outaouais au 104.7 Outaouais. L'Outaouais se lève. Voici Daniel Evan.
Bon matin, Carl.
Bonjour, Daniel.
Ce matin, évidemment, le sujet du jour, comme les Anglais disent, the talk of the town, masque obligatoire, mais le débat continue et fait rage.
Ben oui, il fait rage parce que ça prend du temps, Daniel. Ça prend du temps à ce que les autorités mettent ces mesures-là en place. Écoute, le gouvernement du Québec a annoncé que ce serait obligatoire pour le transport en commun, mais ça fait déjà quelques jours que c'est fait. Ça va prendre encore au moins une semaine. Je pense que c'est à mi-juillet que ça rentre en vigueur. Mm-hmm. À Ottawa, on en parlait, c'est autour du 15 juillet que ça devrait être en vigueur. Montréal, 27 juillet. Gatineau, mais on a entendu le maire Maxime Pedneau-Jobin, pas pris de décision pour la ville d'agir comme d'autres villes, Montréal, Ottawa, Toronto, s'en remet au gouvernement du Québec. Alors, pourquoi ça prend autant de temps pour imposer le masque obligatoire dans les lieux publics intérieurs? Pourquoi on continue de dire si la distanciation physique n'est pas possible? Je me l'explique mal. Écoute, le premier cas de coronavirus au Canada, ça remonte au 25 janvier. On est au mois de juillet.
On est comme gêné, on dirait. Mais il faut dire qu'à Ottawa, depuis ce matin, c'est obligatoire.
C'est obligatoire, mais les amendes là, sont pas en place. Et c'est pas un règlement municipal, c'est la santé publique qui l'impose. Alors, c'est y a une nuance là importante. Mais c'est sûr que les gens se sont fait dire à plusieurs reprises depuis le début que le masque ne fonctionnait pas, que c'était pas utile, que ça pouvait nuire, que c'était un faux sentiment de sécurité. Alors, ils ont pris leurs habitudes. Ouais. Mais la réalité, c'est que lorsqu'on regarde les juridictions à travers le monde qui ont imposé le masque rapidement et de manière coercitive, avec obligation, si on le faisait pas, il y avait des amendes salées, ben, ce sont les juridictions qui ont le mieux résisté à la pandémie. Moins de cas, moins de décès surtout, parce qu'on a su protéger la population. Et là, pour ceux qui disent, ben, ma liberté, mes droits constitutionnels...
Oui, mais celle des autres aussi.
Ben, il y a celle des autres d'une part. D'autre part, liberté constitutionnelle, ça vous donne pas le droit de vous promener tout nu partout. Alors, je vous invite à déposer une requête en cours pour voir si vos droits constitutionnels sont effectivement brimés, parce qu'on vous demande d'agir pour le bien commun, pour le bien-être de la société, pour protéger vos concitoyens. Puis je pense que les tribunaux ça vont pencher clairement en faveur des autorités qui obligent le port du masque dans certains endroits.
Mais ce qui est particulier, c'est que le docteur Arruda a peut-être dit, je sais pas moi, comme ça, je dis ça peut-être 5-6 fois ou peut-être 10 fois que le masque, c'était pas nécessairement bon. Mais les 35 fois qu'il l'a dit après, c'est pas ça qu'on retient. On tient qu'au début, on disait que c'était pas nécessairement la meilleure affaire. Et maintenant, les gens se souviennent plus de ce qui a été dit au début que ce qu'on dit actuellement.
Et en fin de semaine, les autorités de santé publique d'Ottawa qui sont allés d'un gazouillis sur Twitter, là, une longue explication pourquoi on avait changé d'idée. On dit que c'est les éléments scientifiques, les preuves scientifiques qui changent, la connaissance du virus qui change, l'évolution qu'on constate de la maladie. Et là, de plus en plus, Daniel, on parle que le virus non seulement se propagerait au contact par des gouttelettes, mais aussi peut-être simplement dans l'air ambiant. Et là, si on est dans l'air ambiant, là, on ben beau se laver les mains, si on est dans la même pièce que quelqu'un qui l'a, qui respire, il est pas impossible, s'il n'y a pas une bonne circulation d'air, qu'on puisse être contaminé. Donc, les autorités scientifiques continuent d'étudier ça, mais lorsque Maxime Pedneau-Jobin dit on devrait pencher du côté de la prudence, ben j'abonde dans ce sens-là, et qu'on impose le masque obligatoire plutôt que de le laisser au bon vouloir des gens. Parce que si on le laisse au bon vouloir des gens, ben il y en aura en masse, il y en aura toujours en masse pour refuser de porter ce simple masque qui peut protéger, qui peut sauver des vies.
Mais ce qui est particulier, c'est qu'on a besoin de la permission ou la réglementation gouvernementale pour être responsable puis prendre la décision de le faire. Il me semble que c'est 2 plus 2 fait 4, on devrait peut-être faire 4. Ce serait peut-être une bonne idée de le porter, même si c'est pas une obligation.
Et il y en a qui le font, il y en a beaucoup qui le font, il y en a de plus en plus, et il faut dire qu'on a tenté de sensibiliser les gens, mais il y a toujours une partie de la population qui, eux, suivent les règles à la lettre, et même ne suivent pas les règles parce que on est trop lousse avec l'application. Si on impose le port du masque, mais qu'il n'y a personne qui vérifie, puis qu'il n'y a personne qui empêche, par exemple, un usager de monter dans l'autobus si on n'a pas de masque, ben ça donne quoi? Ça donne rien. Et lorsqu'on voit quelqu'un qui décide d'agir en contradiction de ces règlements-là, par exemple, ben, il y en a d'autres qui disent, ben, si lui le porte pas, moi non plus, je le porte pas. Et là, il y a un effet d'entraînement. Alors, c'est pour ça que les gouvernements doivent faire preuve de fermeté. Mais on hésite parce qu'on a un prix politique à payer lorsqu'on fait ça, parce qu'il y a des gens qui, évidemment, vont protester, vont être contre ces mesures-là. Et le gouvernement, les gouvernements, les autorités ne veulent pas payer de prix politique. C'est pour ça qu'il y a une lenteur, parce qu'on attend d'avoir la certitude. Or, malheureusement, cette certitude-là, ça donne une espèce de tergiversation, une hésitation, et ça envoie des mauvais messages qui sont assimilés par la population, ce qui donne les résultats qu'on connaît aujourd'hui.
Il y en a qui pensent, vu que tu portes le masque, tu n'as pas besoin d'avoir une distance. C'est les deux. Même si tu as le masque, tu gardes les deux, parce qu'il y en a qui disent, moi, ça m'est arrivé dans un commerce où une dame est passée près de moi, je dis, madame, vous êtes un peu proche. Elle dit, pourquoi vous ne portez pas le masque à ce moment-là? J'avais pas un masque cette journée-là. Mais c'est deux choses. La distance, c'est une chose, et le masque, c'est autre chose.
Ben quand on se promène dans les allées de certains magasins, je veux dire, il y a des gens là, non seulement on ne porte pas le masque, non seulement on ne respecte pas la distanciation sociale, mais on pèse et sous-pèse les items sur les tablettes, on les touche, on les remet.
Tu parles de département des fruits et légumes, toi là.
Mais tous les départements, Daniel, ouais. Les gens regardent l'étiquette, puis tu sais, je me suis sûrement rendu coupable de l'avoir fait également, ouais, là. Ouais. On veut lire l'étiquette, quel, tu sais, on est habitué, c'est le genre de réflexe, on la remet là, on y pense pas. Là, d'un coup, on se dit, oh, j'aurais peut-être pas dû faire ça. Mais c'est des vieux réflexes qu'on a, et c'est évident que les gens continuent d'agir comme ça, et c'est pas vrai. Hein, et c'est pour ça qu'il y a eu des éclosions dans des magasins comme Walmart sur la Gap. C'est pas vrai que les employés vont passer puis nettoyer toutes les cannes de poids après la fermeture. Ça arrivera pas.
Et c'est alors, pour ça que certains commerces, d'ailleurs, on arrive là, puis on se fait barrer à l'entrée. Que voulez-vous? Puis on va aller vous le chercher.
Maintenant, oui, il y a certains commerces. Oui, certains commerces, surtout les plus petits commerces, hein, où on accompagne le client pour, un, accélérer la visite pour qu'on passe moins de temps à l'intérieur, que la transaction se fasse le plus rapidement possible. Mais évidemment, à l'épicerie, c'est pas possible de faire ça. D'autres magasins non plus, mais il y a une adaptation qui doit être faite du côté des commerces pour accompagner le client, pour aussi, Daniel, faut le dire, tenter de rendre l'expérience le plus agréable possible, ou à tout le moins le moins d'inconvénients possible, pour que le client revienne et ne se tourne pas vers les boutiques en ligne, vers le commerce en ligne, ce qui, évidemment, a été fait par beaucoup de gens au cours des derniers mois.
Absolument. Si on change de sujet, on reste quand même dans le même sujet, parce que l'expérience de certains bars et restaurants font en sorte que là, on parle d'un registre des clients pour ces bars et restaurants.
Ben oui, qu'est-ce que tu penses de cette idée, Daniel? Tu vas à un bar, tu vas à un restaurant et tu dois t'enregistrer ton nom, ton numéro de téléphone, ton courriel. Et là, il y a un registre qui serait disponible pour les autorités de santé publique de tous les clients qui ont passé par l'établissement au cas où il y aurait une éclosion.
Je pense que ça part de ce qui s'est passé dans un club du côté de la Rive-Sud, là.
Oui, à Brossard, là, le Mile House.
Absolument.
Où il y a eu une demi-douzaine de cas des clients qui ont été contaminés à la COVID-19.
Qui étaient déjà contaminés en arrivant là, puis qui ont été pareils.
Et ont répandu la bonne nouvelle. Ouais, c'est ça le problème. Et donc, on voit de plus en plus cette situation-là, puis ça revient encore aux données que les gens ont assimilées. Ils se sont fait dire, par exemple, que si on était asymptomatique, il n'y avait pas de danger. C'est faux.
Ben non.
On sait que c'est faux.
On promène,
mais les gens disent quand même, j'ai pas de symptômes, j'éternue pas, je tousse pas, donc il y aura pas de problème. Ça ne fonctionne pas comme ça.
Tu n'es que porteur du virus à ce moment-là, mais tu vas le donner aux autres.
Exactement. Et donc là, cette idée d'un registre qui commence à faire son petit bonhomme de chemin, faut dire que c'est déjà en place dans certains endroits, notamment en Colombie-Britannique. Même si c'est pas obligatoire, il y a beaucoup de restaurants et de bars qui ont accepté la recommandation de la santé publique là-bas pour mettre en place un registre des clients. Et ce qui arrive, c'est qu'évidemment, s'il y a un cas, on peut rapidement retracer tous les clients qui ont passé cette soirée-là, cette journée-là. Tandis que le cas que tu mentionnais à Brossard, là, le Mile Public House, ben là, la santé publique doit émettre un avis à tout le monde pour dire, ben si vous êtes allé en telle date puis telle date à telle heure et telle heure, faites-vous tester s'il vous plaît. On est plutôt passif, tu sais.
On a l'impression que tu parles du sida, c'est bizarre, hein? Parce que tu te souviens à l'époque, lorsque, évidemment, ça a sorti, alors les gens, évidemment, ont parlé d'un registre, puis savoir qui, puis on se sentait pratiquement comme un criminel, mais c'était pour protéger les gens, les autres.
C'est pour protéger les gens, et bon, écoute, ça va dans la même veine un peu que l'application de traçage là, qui devait être mise en place le 1er juillet, mais qui était retardée, où les gens, et dans certains pays, c'est obligatoire, hein, dans certains pays, tu dois avoir sur ton téléphone une application qui suit tes vas et viens, et qui, si jamais tu entres en contact ou que tu es mis en contact avec des gens qui ont été diagnostiqués positivement à la COVID-19, ben tout le réseau que tu as contacté ou auprès duquel tu as été physiquement reçoivent une alerte pour dire attention, cas potentiel de COVID-19, allez vous faire tester immédiatement. Ce genre d'application-là pourrait être disponible au Canada bientôt, mais ça sera de manière, encore une fois, optionnelle. Les gens pourront le faire s'ils le veulent bien. Et là, c'est le jugement des gens qui entrent en ligne de compte.
Et en terminant, rapidement, M. Bob Rae, qui a une nouvelle promotion.
Ben oui, Bob Rae, qui est devenu ambassadeur du Canada aux Nations Unies. Justin Trudeau a annoncé ça hier. Bob Rae, ancien premier ministre de l'Ontario, du NPD, devenu chef du Parti libéral intérimaire entre Michael Ignatieff et Justin Trudeau, qui a pris sa retraite de la politique il y a quelques années et qui avait laissé savoir à qui voulait bien l'entendre qu'il aimerait bien jouer un rôle à l'international. Alors, Justin Trudeau, il a commencé par lui donner quelques mandats, notamment envoyé spécial du Canada au Myanmar. Ensuite, s'est occupé des questions des humanitaires, des réfugiés pour le Canada. Et là, se retrouve à l'ONU quelques semaines après la défaite, hein, une autre défaite du Canada qui tentait d'obtenir un siège au Conseil de sécurité, a été battu par la Norvège et l'Irlande. Alors, la question se pose, est-ce que Bob Rae sera en mesure de redorer l'image diplomatique du Canada qui a beaucoup souffert au cours des dernières années? Mais c'est un politicien qui a beaucoup de charisme, qui a beaucoup de charme, qui a un sens de l'humour assez aiguisé. On va lui souhaiter bonne chance à Bob Rae, mais en même temps, on constate qu'il n'a pas la feuille de route diplomatique que plusieurs de ses collègues qui sont à l'ONU, qui sont plutôt des diplomates de carrière, qui ont fait leur classe au sein des ministères des Affaires étrangères des différents pays. Ben nous, on envoie un politicien.
Bon, mais voilà, c'est l'avenir qui nous dira si ça a été un bon choix. Carl, merci beaucoup.
Bonne journée, Daniel.
Bonne journée, analyse politique. Carl Bélanger, on se parle demain.